ça rentre dans nos habitudes dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire vérifier qu'on a le téléphone, ses clés, son portefeuille et son masque pour partir.
Sortez masqué, ce n'est plus un conseil mais une obligation depuis ce matin dans les rues de Lille et de sa métropole. Comment la règle est-elle respectée? Nous sommes sur place dans un instant. C'était il y a bientôt 2 ans, l'effondrement du pont Morandi à Gênes en Italie. Un nouveau viaduc est inauguré cet après-midi sans les familles de victimes qui boycottent la cérémonie.
J'arrive pas à me relever parce que c'est 43 vies qui ont été sacrifiées pour avoir droit à un nouveau pont. Enfin, moi, je le prends comme ça, c'est peut-être idiot, hein, mais voilà.
Dans ce journal également, le Sud-Est en alerte face au risque d'incendie. Nous irons à Bormes-les-Mimosas qui ponce toujours ses plaies 3 ans après un feu gigantesque. Le détail sur la prime à la casse qui change de braquet ce lundi. Un violent bizutage en football au centre de formation de l'AS Saint-Etienne. Et puis, il est venu le temps du démontage à Notre-Dame de Paris ce matin pour l'orgue rescapé des flammes l'an dernier.
C'est absolument un miracle que cet orgue soit encore entier, mais il est plein de poussière. Évidemment, il faut tout décontaminer et restaurer après ça.
Votre invité politique après ce journal, Sébastien.
Le masque en extérieur, faut-il l'imposer aussi sur la très touristique Côte d'Azur en ce moment? Et comment la saison démarre-t-elle? Le président de la région Sud, PACA, Renaud Muselier, est mon invité à 8h15. Très bonne matinée à vous, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une métropole de 95 communes, 1 200 000 habitants et désormais autant de masques sur les visages quand on sort dans la rue. C'est en tout cas l'obligation depuis ce matin dans la métropole de Lille où vous nous attendez, Maximilien Carlier. Masque obligatoire dans certaines rues, vous allez nous dire lesquelles. Mais déjà, est-ce que cette toute nouvelle mesure vous paraît respectée?
Oui, dans l'ensemble, tout le monde porte le masque. Ici, par exemple, aux abords de la gare Lille-Flandre, seuls les fumeurs le retirent pour le mettre sur leur menton. Première chose qu'on voit en arrivant, eh bien, ce sont ces affichettes coronavirus information. Port du masque obligatoire, écrit en rouge. Michel ne comprend pas cette mesure.
S'il y a beaucoup de monde, je peux l'entendre. Dans les lieux clos, tout ça, je peux l'entendre. Après, en extérieur, je vois pas l'intérêt de mettre un masque. On respecte quand on est dans un lieu clos. Si on est dans les petites rues du Vieux-Lille, ouais, je peux comprendre s'il y a vraiment de monde. Beaucoup de monde.
Alors cela ne concerne pas toutes les rues, ce sont des secteurs plutôt. L'hypercentre, le Vieux-Lille, comme l'a dit Michel, la Citadelle également, où on retrouve beaucoup de sportifs, dans les zones piétonnes, autour de la Grand Place, sur les parkings des grandes surfaces. La ville de Lille a publié sur son site une carte avec les rues où le port du masque est obligatoire pour y voir un peu plus clair. Antoine vient de garer sa voiture, il met son masque avant de prendre le train.
Il faut que ça rentre dans nos habitudes dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire vérifier qu'on a le téléphone, ses clés, son portefeuille et son masque pour partir. Peu importe quel déplacement, même on va dire un peu insignifiant, ce fait d'aller dans la gare et de le mettre dans la gare, ben, autant le mettre avant pendant le trajet.
Et pour rappel, l'amende pour non-port du masque s'élève à 135 euros.
Merci Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 en ligne de Lille.
Et la même mesure entre aussi en vigueur aujourd'hui dans les rues les plus fréquentées de Biarritz ou encore dans 69 communes de Mayenne. La Mayenne déconseillée par la Belgique à ses ressortissants au même titre que plusieurs villes de Catalogne.
Et chez nos voisins allemands qui préparent leur rentrée scolaire dans une semaine, c'est carrément dépistage obligatoire si vous revenez de vacances. Il y a 130 destinations concernées, Hélène Kohl.
Le ministre de la Santé allemand emploie la manière forte à une semaine de la rentrée des classes dans plusieurs Länder. Ce week-end, il a rajouté 3 provinces espagnoles sur la liste mondiale des zones à risque. La Catalogne, la Navarre et Aragon. Avec le Luxembourg, ce sont les seules régions européennes désignées comme foyer d'infection. Sur cette liste, on trouve beaucoup de destinations prisées des touristes allemands, comme la Turquie par exemple. Au total, 127 territoires qui enregistrent chaque jour en moyenne plus de 50 nouveaux cas de Covid pour 100 000 habitants. Et donc depuis ce matin, plus aucune exception. Tous les vacanciers qui reviennent de ces zones doivent se faire dépister dans les 72 heures. Les laboratoires ont installé des centres de tests dans les aéroports, c'est gratuit. En attendant les résultats, il faut respecter une quarantaine. Pour les voyageurs qui arrivent en provenance d'autres pays, comme la France par exemple, aucune obligation pour l'instant, mais le dépistage est fortement recommandé. Il suffit de montrer son billet d'avion, de train ou même une facture d'essence à l'étranger pour avoir accès à un test gratuit. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et en Australie, Melbourne ferme à nouveau ses commerces non essentiels en plus d'un couvre-feu instauré pour 6 semaines. On dépasse désormais les 18 millions de cas de coronavirus à l'échelle du globe.
Europe 1, 8h05.
C'était il y a presque 2 ans, le 14 août 2018. Un monstre de béton qui s'effondre, le pont Morandi à Gênes. 43 morts, dont 4 Français dans cette catastrophe.
Moins de 2 ans après, cela apparaît comme une prouesse. Un nouveau pont sera inauguré cet après-midi en présence du président italien, mais sans les familles de victimes qui boycottent la cérémonie. cérémonie. Véronique Pouzadou a perdu son fils qui rejoignait un festival de musique techno avec trois amis. Perdue dans la procédure judiciaire à court d'argent pour financer ses avocats, elle a accepté à contre-cœur d'être indemnisée.
J'arrive pas à me relever et quand le mois d'août arrive, c'est encore pire. Et là, c'est sûr qu'il y a la reconstruction du pont, l'inauguration. C'est bien, moi je suis pas dans la haine, hein. Je suis contente entre guillemets pour les Génois qui vont avoir un nouveau pont et je pense que pour eux c'était vraiment très important. Mais pour nous c'est quand même compliqué, je veux dire, parce que c'est 43 vies qui ont été sacrifiées pour avoir droit à un nouveau pont. Enfin, moi je le prends comme ça, c'est peut-être idiot, hein, mais voilà. Moi ce que je voulais c'est aller au procès et puis après on nous a dit ouais, mais ça va vous coûter des millions. Parce que ça va durer très longtemps et donc moi j'ai pas les moyens, je peux pas emmener ma famille à la ruine, donc on a été obligé d'accepter l'indemnisation. Mais en contrepartie, elle n'en a plus le droit de participer au procès. J'aimerais au moins qu'on me dise qu'est-ce qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qui a été fait pour que ça arrive. Qu'il ne soit pas parti pour rien. Même encore maintenant, j'arrive pas à y croire, quoi. Je me dis comment un truc pareil a pu arriver.
Le témoignage de la mère de William Pouzadou, mort dans la chute du pont Morandi, elle répondait à Jiane Bergaoui.
L'actualité politique à présent est un été hyperactif pour Jean Castex. Le Premier ministre est, semble-t-il, décidé à poursuivre ses très nombreux déplacements de terrain.
Il était hier soir dans un centre du SAMU social à Paris, attendu ce matin à Lille. Sur le thème, on en parlait du port du masque obligatoire. Un mois aujourd'hui qu'il a pris ses fonctions, Adrien Beck, et des sondages plutôt positifs.
Il a l'air bien dans ses baskets. Pour ce conseiller ministériel, Jean Castex a réussi son premier mois à Matignon. D'abord dans le style, l'ancien maire de Prades est parvenu à se démarquer de son prédécesseur. Il fallait qu'il soit dissonant avec Édouard Philippe. C'est réussi, constate un membre du gouvernement. Et puis le Premier ministre s'est très vite détaché de l'image de collaborateur d'Emmanuel Macron. Il impose certains choix, il apparaît même parfois plus rigide qu'Édouard Philippe, constate un conseiller. Sa méthode, le terrain, déjà une vingtaine de déplacements en un mois et cela va continuer tout le mois d'août. Il aime ça, dit-on à Matignon. Entre résurgence du coronavirus, crise économique, faits divers, Jean Castex entend se montrer partout. Deux déplacements sont déjà à son agenda cette semaine. Mais attention à l'omniprésence, met en garde un cadre de la majorité. Communiquer c'est bien, dit-il, mais on ne gardera pas la confiance sans résultat.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Et on verra ce qu'en pense justement de ce Premier ministre un mois après. Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région Sud. Il est mon invité politique juste après le journal. Hier, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était en visite déjà à Lille. Il y a annoncé 60 policiers supplémentaires pour lutter contre les trafics de drogue.
Accès interdit aux promeneurs dans tous les massifs des Bouches-du-Rhône et du Var. Encore aujourd'hui, risque très élevé d'incendie. Des feux dont la nature met toujours des années à se relever. On se souvient ce matin du gigantesque feu qui avait ravagé à l'été 2017 les environs de Bormes-les-Mimosas, 1600 hectares partis en fumée en une nuit, des milliers de vacanciers évacués. Et trois ans après, le difficile, très difficile retour de la verdure. Reportage Marion Gauthier.
Ça, c'est la limite où le feu s'est arrêté. On a perdu les châtaigniers, les pins. Ça fait drôle parce qu'on ne l'a pas connu comme ça. Il faut laisser le temps venir.
Plus petite, moins dense qu'avant, la végétation reprend pourtant ses droits sur la colline des Cardenons où habite Marc depuis plus de 20 ans.
Une petite bogue là qui commence. Il y a un châtaignier qui a repris. C'est super magnifique.
Les pousses d'un vert frais côtoient ici des troncs noirs et des branches calcinées. Reste d'un brasier qui a d'abord changé le paysage, puis les habitudes des riverains.
Souvent, j'allais dans la colline où ils ramassaient les champignons, tout ça. J'ai mis des mois et des mois avant de remettre les pieds à l'endroit où j'allais. Ça me faisait mal au cœur.
Marc n'y est retourné que 2 ans et demi après le sinistre et il tremble encore quand le Mistral se lève, comme Alain, voisin de la Favière.
On peut se promener dans le massif, il y a des pistes qui permettent de se déplacer. Simplement, nous qui vivons ici, on sait que par temps de fort Mistral, on ne va pas dans les massifs parce qu'on peut propager un incendie, par exemple.
Et il faudrait au moins une dizaine d'années pour retrouver la nature d'avant l'incendie. La Favière, Marion Gauthier, Europe 1.
Il est 8h10, la suite du journal sur Europe 1. Théo Manval, Sébastien Krebs.
Et à Notre-Dame de Paris, c'est le début d'une nouvelle étape de la rénovation de la cathédrale. Le démontage du grand orgue commence ce matin.
Il résonne entre ses murs depuis 1733. Il a été miraculeusement épargné par l'incendie, mais ses 8000 tuyaux ont avalé beaucoup de poussière. C'est donc un grand jour et un sacré chantier qui s'annonce pour Olivier Latry, l'organiste titulaire de Notre-Dame.
C'est absolument un miracle que cet orque soit encore entier, mais il est plein de poussière. Évidemment, il faut tout décontaminer, la poussière de plomb, puis restaurer après ça. Donc c'est un énorme chantier. Un orque est extrêmement fragile, on dirait pas comme ça, parce qu'on voit évidemment une énorme masse avec beaucoup de volume et des choses très lourdes. On dit que c'est indestructible, mais pas du tout. C'est composé de milliers de pièces. Il y a des tuyaux qui font plus de 10 mètres de haut, il y a des tuyaux qui font moins d'un demi-centimètre. Si vous les manipulez un petit peu trop violemment, ben on perd le son du tuyau.
À quelle date est-ce que vous espérez pouvoir de nouveau vous installer face à cet orgue et jouer ?
Écoutez, on nous promet que l'orgue sera là pour l'avril 2024, alors on s'accroche à cette date. Il y a un rapport presque charnel à cet instrument. J'y ai passé des heures, de jours, de nuits à travailler, à enregistrer, à jouer des concerts, à jouer des offices. Je me sens un petit peu orphelin et j'attends vraiment la résurrection.
Olivier Latry, titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Paris, il répondait à Caroline Baudry.
Conditions d'attribution durcies et montant réduit. Hein. Attention, la prime à la conversion dans l'automobile est revue à la baisse à partir d'aujourd'hui.
Elle avait été élargie après le confinement pour vous inciter à acheter des voitures moins polluantes et du même coup soutenir le secteur automobile durement frappé par la crise. Ça a bénéficié à 200 000 foyers. Mais c'est donc aujourd'hui le retour au dispositif tel qu'il était avant le Covid. Élise Dangean, plus concentrée sur les ménages les plus modeste.
À partir d'aujourd'hui, on revient au barème initial. Concrètement, ça veut dire que si vous souhaitez vous offrir un véhicule thermique, essence ou diesel, votre revenu fiscal de référence ne devra pas dépasser les 13 500 euros. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un coup de pouce de 1 500 à 3 000 euros. Mais attention, il vous faudra toujours choisir un modèle récent, critère 1. Ou deux. D'ailleurs, la prime reste plus avantageuse si vous voulez passer à l'électrique ou à l'hybride rechargeable. 5 000 euros d'aide si votre revenu fiscal est inférieur à 6 300 euros ou si vous êtes, pour le travail, un gros rouleur. Pour ceux qui sont au-dessus du plafond, le montant de la prime s'élève à 2 500 euros. Dernière condition pour bénéficier de cette nouvelle prime à la casse, et là, ça ne change pas, votre voiture actuelle doit être un modèle essence immatriculé avant 2006 ou un diesel immatriculé avant 2011.
À l'étranger, retour sur Terre réussi pour la capsule SpaceX. Cette nuit, elle a ramené deux astronautes américains de leur séjour dans la Station Spatiale Internationale. Une première pour une société privée. L'état de santé de Benoît XVI, extrêmement fragile, c'est ce que révèle la presse allemande. Le pape émérite, âgé de 93 ans, souffre d'une maladie infectieuse qui rend sa voix à peine audible, selon le journaliste allemand qu'il a rencontré.
Enfin, en football, ce ne sont vraiment pas les valeurs du sport. Hein. Un bizutage ultra violent a été révélé ce week-end au centre de formation de l'AS Saint-Etienne.
Deux jeunes joueurs, encore mineurs, ont été frappés à coups de bâton par d'autres pensionnaires plus âgés. Deux auteurs de ces violences ont été mis à pied en attendant leur sanction. Un troisième exclu temporairement. Le club stéphanois a porté plainte, Cyril de la Morinerie.
D'habitude, chez les Verts, on invite les nouveaux pensionnaires à monter sur une chaise et à pousser la chansonnette lors d'un dîner pris en commun. Mais cette fois, les codes de bonne conduite auraient été largement bafoués. Deux jeunes joueurs auraient reçu des coups de bâton. Un bizutage improvisé inacceptable, rappelle le club stéphanois. L'ancien joueur Marc Libra, qui a passé 5 ans dans un centre de formation, à l'OM exactement, assure qu'il n'a jamais rien vu de tel.
Moi, j'ai été bizuté, ils m'ont balancé dans la baignoire, avec de l'eau à 1h du matin. Un mois et demi après, s'il y a un joueur qui est arrivé, j'étais derrière la porte pour faire une bêtise, pour lui planquer ses affaires, pour lui planquer ses clés. Donc c'est une tradition. Il n'y a jamais eu de violence physique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais frappé quelqu'un, on n'a jamais roué de coups à coups de bâton.
Ces deux fils, passés récemment par les centres de formation de l'OM et de la CA Ajaccio, ont vécu la même chose, mais jamais ils n'ont été victimes ou témoins de violence. En portant plainte, Saint-Etienne a voulu agir vite. Le club stéphanois tient beaucoup à ses jeunes et à son centre de formation. C'est aussi l'image de la France qu'il faut défendre. Le pays est champion du monde de la formation. Tous les clubs européens s'arrachent aujourd'hui, nos jeunes.
Cyril de la Morinerie.
Merci, c'était le journal de Théo Manval. Prochain journal à 8h30.